Alors bonjour à toutes et bonjour à tous, nous sommes en direct des Assises du journalisme sur le plateau de Radio Campus et je suis avec David Assouline, sénateur de Paris, qui a été rapporteur pour une commission d'enquête parlementaire sur la concentration des médias à l'issue duquel 32 propositions ont été formulées. Alors peut-être première question, est-ce que vous avez été satisfait de ce travail mené ?
Globalement, l'objectif premier que j'avais, que nous avions, c'était de mettre sur la place publique cet enjeu, cette problématique de la concentration des médias. Depuis 20 ans, on assiste à cette concentration de façon accélérée ces dernières années, ces derniers mois, et personne n'en discute. C'est-à-dire que s'installe un nouveau paysage médiatique avec quelques personnes qui détiennent quasiment l'ensemble du monde des médias et de la presse, sans que nous ayons discuté, parce que de toute façon, cette question a toujours été un enjeu, y compris politique et législatif. Il y a une loi qui date de 86 qui réglementait, qui limitait ses potentialités. Or, avec la révolution numérique, beaucoup des cadres, beaucoup des cadres ont explosé, tant en termes de ce qu'on appelle les concentrations horizontales, mais n'avaient pas prévu les concentrations verticales qui existent maintenant avec la révolution numérique et l'arrivée de l'Internet. Et donc tout ça devient obsolète et à côté, la concentration avance dans toutes les failles, dans tous les trous de ce qui n'a pas été prévu dans la loi, et même ce qui était prévu parfois n'a plus de sens complètement. Et donc il fallait qu'il y ait un débat public. Eh bien, on a réussi, parce que franchement, moi je vois que sur les travaux de la commission d'enquête, j'ai demandé qu'on passe la revue de presse, le Sénat a quelques moyens pour faire les choses bien, il y avait 500 articles ou émissions qui ont eu lieu sur le travail de la commission d'enquête, sans compter les débats, les articles et tout sur la concentration et pas la commission d'enquête qui enquête là-dessus.
Le travail, c'était de mettre sur la place publique
quelque chose un débat public.
Parce que bon, il y a une séquence qui est beaucoup revenue, hein, c'est la séquence où vous énumérez tous les médias de Vincent Bolloré. Ça aussi, ça a participé, selon vous, à un débat public sain sur sur cette question-là ?
Oui, écoutez, c'était problématique parce que moi j'étais là, il y a eu une centaine d'heures d'audition, donc on a travaillé, on a été au fond des choses. Mais à un moment donné, ce que permet une commission d'enquête, c'est de faire venir des gens qui sont obligés de venir, ou sinon c'est les gendarmes qui vont les chercher. Et il y a des gens, notamment ces milliardaires, qui ne s'expriment jamais sur ça, et qui choisissent où ils vont aller, à qui ils vont répondre quand ils le font. Or là, c'était une obligation pour ces milliardaires qui, pour la première fois, venaient répondre à des questions sur cette question des médias, alors que leurs activités sont souvent à eux. Ils ont des PDG qui s'occupent des médias, mais eux, Bouygues, c'est le BTP, pour ce qui est de Bernard Arnault, c'est
Xavier
le Luxe,
Niel,
etc., etc. Et donc, ça, c'était très intéressant. Et c'est vrai que quand j'ai lu pour montrer, parce que je savais que c'était très médiatisé, cette audition particulière de Vincent Bolloré, et pour que ça frappe et que les gens comprennent de quoi on parle, quand on m'a posé la question tout à l'heure, c'est quoi la concentration des médias, eh bien, j'ai mis 6 minutes en allant vite à énumérer l'ensemble des médias que possède Bolloré. 6 minutes, j'avais plusieurs pages à lire. Et donc, cette séquence, si vous préférez, qui a été très reprise, on va dire, surtout d'ailleurs dans les réseaux sociaux et sur le net et YouTube, etc., a participé à frapper, à rendre visible ce dont on parle et de poser la question, est-ce que c'est normal par rapport au pluralisme ? La diversité, qui a un seul propriétaire à la tête de tout ça, sans que vous le sachiez. Parce que vous lisez tel bouquin, vous ne savez pas que c'est Bolloré qui est le propriétaire de la maison d'édition.
Parce qu'il y a une emprise sur Hachette, sur les diffusions en cours aussi dans le monde de l'édition.
Il y a des dizaines de maisons d'édition, des dizaines qui appartiennent maintenant à ce groupe avec l'OPA qu'il a lancé sur Lagardère. Vous ne savez pas forcément quand vous lisez Paris Match, et ben maintenant c'est Bolloré le patron. Quand vous lisez le JDD, et ben c'est encore Bolloré le patron. Quand vous écoutez Europe 1, ben c'est Bolloré le patron. Et quand vous écoutez CNews, c'est Bolloré le patron. Et quand vous allez à l'Olympia, c'est lui qui possède la salle. Et quand vous allez, etc., etc. Donc c'était intéressant de le dire et de le démontrer pour que la question soit posée. Après, je suis déçu sur les propositions.
Voilà, il y a eu un texte consensuel quand même qui a été...
Vous savez, la règle, elle est la suivante, et c'est un choix à faire. Bon, le Sénat, il est dirigé par la droite, il ne pense pas comme moi. Alors, il y a des sujets où on peut arriver sans effort à être d'accord pour porter même des questions qui sont dérangeantes pour la société, mais on est d'accord qu'il faut les poser. Sur cette question, très vite, j'ai vu que des sénateurs du groupe Les Républicains se comportaient comme s'ils étaient au service de Vincent Bolloré. Donc ça allait être compliqué de se mettre d'accord. Et ça n'a pas manqué. Donc j'avais le choix, si c'est eux qui sont majoritaires, s'ils n'étaient pas adoptés, ils étaient mis à la poubelle. C'est-à-dire tout notre travail, les 100 heures d'audition, le travail des administrateurs, j'avais 385 pages
de rapport. Mais c'est des centaines de pages qui ont été publiées sur ça.
Tout ça, c'est à la poubelle. Et donc, je me suis dit, je préfère un petit pas, parce que dans nos propositions, il y a des choses pas mal, des choses qui font avancer, mais j'aurais aimé plus sur certains domaines pour assurer beaucoup plus l'indépendance des rédactions, un peu avec le modèle qu'a Le Monde. Je trouvais que c'était pas mal, ça, parce que comme on ne peut pas beaucoup remettre en cause les concentrations économiques, parce que si on fait une loi, c'est pour les nouveaux entrants, puisque les lois ne sont jamais rétroactives, et donc des géants ne pourraient pas venir, mais ceux existants seraient là, tranquilles, pour longtemps, parce qu'elles n'auraient même plus la concurrence qui arriverait. Donc j'étais limité dans les possibilités de changer complètement la donne, mais je me disais, quelles que soient les concentrations qu'il faut quand même limiter, il faut dans ce cas-là assurer que les journalistes et les rédactions soient indépendantes et ne soient pas pressurisées et atteintes dans leur indépendance de travail par ces puissances-là qui dominent et qui sont propriétaires.
Et quel que soit leur bord politique, vos collègues sénateurs ne sont pas effrayés par ce qu'on peut observer outre-Atlantique avec l'empire Fox News et ce qu'on a vu in fine, c'est-à-dire la mise en, quasi en péril de la plus grande démocratie du monde, la démocratie américaine.
Mais si, il y en a pas mal qui sont qui étaient d'accord avec moi. Des sénateurs socialistes, bien sûr, verts, communistes et même centristes. On n'est pas complètement d'accord. Le président Lafont de la Commission, lui, il y a des choses sur lesquelles on n'était pas d'accord, il ne voulait pas que j'aille trop loin, mais par contre, était complètement scandalisé par ce qui se passait avec CNews. Parce qu'il voyait effectivement que ça commençait à ressembler à Fox News. Et il voit bien le danger, mais on a eu des sénateurs LR particulièrement déchaînés pour dire pas touche. Il y a un sujet qui, pour les gens, ne fait même plus débat. Parce qu'il ne fait pas débat, parce que certains sont même d'accord avec que ça soit comme ça. Les auditions démontraient à l'évidence que CNews est une chaîne d'opinion.
Oui,
On peut apprécier ou pas, d'ailleurs. Certains peuvent dire, bah oui, quoi, on a le droit d'avoir une chaîne d'opinion, voilà. Comme leur autorisation d'émettre n'est pas sur une chaîne d'opinion, puisque c'est une chaîne d'information, ils ne voulaient pas que je le dise. Donc ils se sont battus pour enlever ça. Bon, donc ça a fait quelques tensions au moment de la réunion de la commission d'enquête, mais moi, je voulais trouver à chaque fois les mots, etc., qui permettent que ça soit publié. En gros, les gens, s'ils lisent bien ce rapport, s'ils lisent les 600 pages d'audition, parce qu'elles sont aussi publiées.
Il y a une version courte, je précise.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que rien n'est occulté. Ça, j'y tenais. Je disais, ce qui s'est passé dans la commission d'enquête, je ne veux pas que ce soit barré. Bon, peuvent se faire une opinion. Peuvent se dire, est-ce que c'est juste ? Peuvent se dire, est-ce que c'est sain pour la démocratie ?
Et après, quels sont les moyens d'action concrets ? Parce que l'OPA sur Lagardère va continuer. La fusion de TF1-M6 va aboutir. Comment quels sont les moyens d'action concrets ?
Oui, vous savez, c'est pas toujours blanc ou noir. Parce que tout ce qu'on fait permet aussi de mettre la pression sur le fait qu'ils ne le fassent pas de façon n'importe comment. Par exemple, TF1-M6, on a dit il faut investir dans l'information. Il ne faut pas toucher aux rédactions indépendantes de chaque média, etc. Et donc, pour que leur dossier soit accepté, eh bien, ils donnent des garanties là-dessus. Bon. L'OPA sur Lagardère dans l'édition, ça passe à la Commission européenne. C'est pas en France que ça se décide, en fait. Et là aussi, s'ils en restaient à ce qu'ils voulaient, de façon brute, ils auraient eu peut-être pas eu un avis positif. Donc, ils aménagent, ils mettent en revente des secteurs parce que c'est trop. Bon, donc, on peut... Là, en gros, j'ai envie de vous dire que la lutte paye toujours. Hein, bon. Et la lutte, c'est pas... Elle est bien que quand on a gagné totalement, c'est des fois on arrive à un certain tas. Et ça permet que certains n'aillent pas trop loin dans ce qu'ils veulent faire. Mais il y a des propositions qui avancent. Bon, là, malheureusement, il y a une chose que nous préconisons, c'est de maintenir la redevance comme
c'est
moyen.
C'est ce que j'allais aborder pour terminer sur, effectivement, la proposition. Après, on va y aller parce qu'on est pressé par le temps. Mais on entend certains candidats, et notamment Emmanuel Macron, qui proposent de supprimer la redevance audiovisuelle, qui est quand même la garante d'une indépendance médiatique dans ce pays. Est-ce que là aussi, il y a une
alors,
y a
quelque chose malheureusement, vous voyez, vous restez dans le passé, mais il n'est plus candidat, il est élu.
Oui, excusez-moi, donc, je dis candidat,
non,
mais il est
pourquoi
élu.
Parce qu'il est parce que hier, il s'est passé quelque chose d'important dans le Conseil des ministres. Ils ont décidé d'appliquer, dès 2022, la fin de la redevance. Et donc, pour moi, par exemple, dans ce monde de concentration médiatique et avec le secteur privé, il y avait quelque chose à renforcer, presque en contrepartie de ce qui se passe, c'était l'audiovisuel public, radio et télé, parce que là, on peut garantir un pluralisme. Là, il n'y a pas de puissance financière qui peuvent faire les pressions, etc., puisque c'est l'État, c'est les citoyens qui élisent des gens, et il peut y avoir il y a des critères, il y a des chartes, etc., qui permettent quand même si on n'est jamais très content de tout, mais de faire, et ça se voit, qu'il y ait une qualité, une exigence de pluralisme, d'indépendance plus forte, et sans courir à l'audimat pour l'argent et la pub et tout ça. Bon, donc, c'est pas mal qu'il y ait un audiovisuel public en contrepoint. Ben, la première décision de Macron, hier...
Oui, c'est hier.
Hier. Bah, donc, ça veut dire...
Vous nous l'apprenez.
Ça veut dire que à la rentrée, la première loi de rectification budgétaire qui va avoir lieu dès que l'Assemblée nationale va être élue, on va être saisi pour faire un budget rectificatif.
Il y aura un budget qui va être voté, du coup.
Ils vont proposer un budget, mais chaque année, donc, ça sera au budget de l'État que vote le Parlement. Et donc, ça sera une pression supplémentaire pour France Télévisions et pour Radio France d'être un peu sous la coupe de Bercy.
Oui, parce que ça sera un budget qui sera voté.
Oui,
donc,
si Bercy, fois, ça leur prend souvent de dire « Ah, oh, bah, vous gâchez un peu trop d'argent, pourquoi vous faites des émissions là-dessus qui ont peu d'audimat, par exemple alors que si vous étiez dans le privé, bah, vous ne pourriez pas... on vous réduit les budgets, ça serait une ingérence directement sur les programmes et tout ça. Ou bien tout simplement avec leur doctrine, plus on fait d'économies, mieux c'est. Or on sait très bien que c'est un secteur qui a besoin d'argent pour faire de la qualité, qui déjà il est relativement asséché. Et dans le domaine de l'information, un des problèmes majeurs du pays, c'est la précarisation du métier de journaliste qui empêche de faire face aux fake news, etc., qu'il y a sur les réseaux sociaux, de la différence et de l'information de qualité. Et c'est ça qu'il faut encourager, que des journalistes puissent être payés normalement, avoir le temps de travail pour aller dénicher des informations et pas pour répéter en perroquet des dépêches ou des informations toutes faites, ou alors des titres accrocheurs. Les journalistes ne veulent pas ça, mais on les contraint souvent à se formater dans un moule qui n'est pas un moule qui permet réellement de remplir ce rôle, qui est celui d'informer les citoyens pour qu'ils se fassent leur propre jugement.